Commençons en allant au livre de Colossiens, s'il vous plaît, chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Dans cette écriture, Paul s'adresse à l'église de Colosse, une église non israélite, de païens ou de gentils. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Il parle de l'Église, du corps du Christ, et de son ministère au service de ce corps. Verset 24, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Quel est ce mystère? De quoi parle-t-il? Verset 27, « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère pour le monde, même à ce jour. Vous savez, c'est un élément manquant. Si nous ne l'avons pas, tous nos efforts pour changer, pour grandir et pour vaincre seront frustrants. Nous allons nous frapper la tête contre le mur et nous ne saurons pas pourquoi. C'est ce que Paul fait ressortir ici. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Aimeriez-vous avoir davantage la pensée de Christ? Aimeriez-vous cela? Nous parlons ici de Jésus-Christ vivant en nous l'espérance de la gloire. Si oui, comment faire? Voyons maintenant Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est un passage familier et nous commencerons à lire au milieu du contexte. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quelle déclaration profonde! Il est facile de ne pas bien la saisir, de ne pas vraiment réaliser l'importance énorme de ce qu'il dit. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il suffit simplement de lire les paroles du Christ et, subito presto, cela me change et me rend différent? Quelle que soit mon attitude ou mes actions, nous savons qu'il y a plus à faire. Qu'est-ce que cela signifie? Allons au verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il parle du même sujet, le Christ vivant en nous. Verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Nous voulons que le Christ vive en nous, et par son esprit, il le fait. Mais il dit que nous devons nous nourrir de lui. Nous avons donc un rôle à jouer. Et cela nécessite certainement de lire la Bible. La Bible est l'expression écrite de la pensée de Dieu. Comme nous l'avons entendu tant de fois. Mais, vous savez, nous pourrions simplement lire la Bible à la hâte, prier Dieu rapidement et penser, « Bon, voilà, c'est terminé. Je peux cocher l'item sur ma liste. J'ai fait mon travail. » J'ai mis les paroles de Christ dans mon esprit sans vraiment réfléchir à ce que nous faisons. Mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin de plus. Nous irons à Psaume 119, Le fait de nous tourner vers certaines des paroles de David nous aide à voir plus clairement ce que nous devons rechercher. Psaume 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. David est un exemple exceptionnellement puissant de quelqu'un qui était en relation avec Dieu, qui a marché avec Dieu et qui comprenait ce que signifie connaître Dieu, en venir à le connaître. Dans ce psaume, David dit ceci. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. La méditation est quelque chose de bien différent du simple fait de lire à la hâte pour avoir une idée générale des personnages impliqués dans un récit. Il s'agit vraiment d'une réflexion qui permet aux mots de pénétrer réellement en nous, aux idées et aux concepts, de prendre forme dans notre esprit, pour nous donner de saisir le message que le Créateur veut nous transmettre. David méditait sur ces paroles, il prenait le temps d'y penser. Notez psaume 63, verset 7. Psaume 63, et nous allons lire le verset 7. Dans ce psaume, David a écrit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. » David méditait la parole de Dieu. Il méditait sur Dieu lui-même. Il prenait le temps de réfléchir profondément à l'être qui avait inspiré ces paroles. Celui qui avait transmis ses pensées et ses concepts. Il s'appliquait à examiner et à évaluer. Que fait cet être et comment pense-t-il? Quelles sont ses pensées? Au moment même où David écrivait, il désirait être aussi proche de Dieu que possible. Alors que nous cherchons à être animés par la pensée du Christ, qu'est-ce que cela signifie? S'agit-il simplement de mots ou d'une sorte de slogan? Ou méditons-nous réellement pour comprendre la pensée du Christ? Réfléchissons-nous à ce qu'elle est vraiment et la laissons-nous changer notre façon de penser? J'aimerais en parler aujourd'hui parce que nous pouvons prier pour avoir l'esprit, la pensée de Dieu, nous pouvons même lire à ce sujet, mais si nous ne faisons pas attention, ce sera seulement un item à cocher avant de passer précipitamment à autre chose. Et nous ne nous arrêtons pas vraiment pour réfléchir à ce que nous lisons et à qui nous parlons. Voici le titre de mon message aujourd'hui. Méditer sur la pensée du Christ. Méditer sur la pensée du Christ. Au fur et à mesure que nous avancerons dans le sermon, nous allons méditer, nous allons parler et réfléchir à plusieurs aspects du fonctionnement de la pensée du Christ. Alors que nous nous efforçons d'acquérir et que nous demandons à Dieu de nous donner aussi cette même façon de penser. Considérons différents aspects de notre vie. Commençons par la paix. Numéro 1. Aimeriez-vous avoir plus de paix dans votre vie? Et quand je dis paix, je veux dire paix d'esprit, paix intérieure, un sentiment de paix et d'équilibre dans votre vie. À l'opposé de ce qu'est la tourmente, qui rend frustré et anxieux, aimeriez-vous avoir plus de paix dans votre vie? Je pense que nous aimerions tous être en paix à un degré ou à un autre. Nous vivons dans un monde stressé. Nous risquons de nous énerver et même de nous laisser submerger par les événements. C'est très facile. Quand j'étais enfant, j'avais tendance à m'inquiéter et à me stresser à propos de différentes choses. Je me souviens d'une nuit, j'étais allongé dans mon lit pendant que mes frères dormaient. Nous partagions la même chambre et nous avions des lits superposés. J'étais étendu dans le lit du haut et je m'inquiétais au sujet d'un exposé que je devais présenter le lendemain, un compte-rendu de lecture. J'étais en cinquième année, j'avais environ 10 ans et je me souviens cette nuit comme si c'était la nuit dernière parce que j'étais allongé sur la couchette supérieure, regardant par la fenêtre. C'était une belle nuit en fait. La lune était pleine et brillante à travers la fenêtre et j'étais absolument terrifié. Terrifié par le discours que je devais donner le lendemain. N'est-ce pas un peu ironique que je vous parle de cette expérience alors que nous parlons comme ça? J'étais terriblement terrifié. J'ai survécu à mon compte-rendu de lecture, mais ça a été un moment stressant dans ma vie. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je crois qu'il est utile, en vieillissant, de se rappeler que nos enfants sont parfois stressés, que nos enfants ont des peurs, qu'ils ont des inquiétudes, et qu'il ne faut pas minimiser ces inquiétudes ou ces peurs. Elles sont très réelles. Nous pouvons les aider à traverser ces moments. Je me souviens aussi qu'un peu plus tard, cette année-là, en cinquième année, j'étais avec un ami de ma classe, et nous parlions. Il avait une sœur qui avait obtenu son diplôme cette année-là, un diplôme du secondaire. J'avais aussi une sœur qui graduait aussi cette année-là. Et pour une raison quelconque, nous parlions de nos sœurs. Je ne me souviens pas pourquoi, mais je me souviens du changement qui s'est produit dans mon esprit. Je me souviens avoir pensé, eh bien, un jour peut-être que j'obtiendrai aussi mon diplôme. Et vous savez quoi? Un jour, peut-être que je ne m'inquiéterai pas des choses qui m'inquiètent aujourd'hui, parce que je serai grand, je serai plus âgé, j'aurai grandi et je serai différent. Cette petite pensée me permettant de visualiser un moment de ma vie où les choses seraient différentes était vraiment encourageante face aux peurs que je devais affronter à l'âge de 10 ans, en cinquième année. Quand à mon tour, j'ai obtenu mon diplôme, 6 ou 7 ans plus tard, je n'ai pas pensé aux peurs que j'avais à l'âge de 10 ans. Effectivement, mon désir s'était réalisé. J'avais par contre des soucis nouveaux et différents, comme c'est souvent ce qui se passe. Je crois qu'il est utile pour nous de méditer en pensant à la façon dont les choses pourraient être différentes, comment elles pourraient se passer. Quand nous souffrons, quand nous luttons, il est bon de nous projeter dans un temps futur où ce qui nous dérange maintenant ne sera plus un problème. Allons à Jean, chapitre 14, verset 25. Jean 14, le verset 25. Jésus a donné des directives très importantes. Juste avant de mourir, avant d'être arrêté, trahi, battu et crucifié. Les instructions qu'il a données sont précieuses, très significatives et très importantes. Jean 14, verset 25. Voyons certaines des choses qu'il a dites. Il a parlé de paix. Il a dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors aimeriez-vous avoir plus de paix, frères et sœurs? Laissez-moi reformuler cela. Car nous n'avons pas besoin de plus de paix, nous avons besoin d'une paix différente. Nous avons besoin d'une paix meilleure. Nous n'avons pas besoin de plus de paix humaine. Au point de vue humain, dans le monde, il y a une sorte de paix que ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent acquérir par expérience, en vivant tout simplement et en apprenant du vécu des autres. Mais on frappe un mur à un moment donné, n'est-ce pas? À un certain moment, ce qu'il nous faut, ce n'est pas une plus grande quantité de paix humaine, mais la paix du Christ en nous. La paix dont nous avons vraiment besoin, c'est celle-là. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la pensée du Christ. Nous savons cela. Nous le comprenons au baptême, quand on nous a imposé les mains. Mais nous n'avons pas pleinement l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore pleinement l'Esprit du Christ. Alors, parfois nous nous inquiétons, parfois nous sommes stressés et effrayés. Et c'est difficile. Je pense qu'il est utile pour nous de réfléchir aux paroles du Christ qui nous nourrissent et de visualiser ce que signifie vraiment avoir l'Esprit du Christ. Vous savez, il a affronté l'épreuve la plus difficile de sa vie. Imaginez quand il a parlé à ses disciples. Essayez de voir les choses avec ses yeux, pour ainsi dire. Imaginez cet instant. Méditez là-dessus quelques moments. Essayez d'imaginer cela. Pouvez-vous sentir le calme profond qui devait l'habiter pour être capable de dire ces choses à ses disciples? Je sais, vous allez me dire que dans Luc, il est écrit qu'il a prié de façon si intense que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Absolument, il subissait une grande pression. Il était soumis à un stress énorme, mais en même temps, comment aurait-il pu dire ce qu'il a dit à ses disciples sans avoir un profond sentiment de paix, sans avoir un profond sentiment de calme et de tranquillité? Il ne paniquait pas. Je crois qu'en pareille situation, la plupart d'entre nous auraient certainement paniqué à ce moment-là, sachant que ce qui allait arriver quelques heures plus tard. Il n'y avait pas de panique en lui. Pensez-y. Et c'est à cet esprit que nous avons accès. Comment ce sera quand nous penserons vraiment comme Dieu? Quelle sorte de paix aurons-nous? Visualisez cette paix. Le fait d'y réfléchir peut même nous donner un peu plus de paix maintenant, alors que nous luttons. Je me souviens qu'à un certain temps dans ma vie, à peu près au moment ou un peu avant d'être baptisé, j'ai commencé à penser à cela. J'avais tendance à m'inquiéter très facilement. Je n'avais pas changé. Je m'inquiétais encore, mais de choses différentes, en tant que jeune adulte. Je me souviens avoir pensé, wow, ce serait incroyable, merveilleux, quand j'aurai l'Esprit de Dieu, sa pensée. Je ne crois pas que Dieu passe son temps à s'inquiéter là-haut au troisième ciel. Je ne pense pas qu'il soit stressé. Je ne pense pas qu'il soit frénétique. Oui, il a des problèmes à régler, bien sûr. Il a des litiges à résoudre. Mais je ne pense pas qu'il soit stressé. C'est tellement encourageant pour moi d'imaginer avoir sa pensée, son esprit, et de réaliser « j'en aurai un peu quand je serai baptisé » et cela pourra ensuite augmenter et se développer. Nous pouvons avoir non seulement plus de paix, mais une paix différente, la vraie paix de Dieu. Jean 16, verset 33, le Christ dit « je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi ». Nous avons une paix à un niveau totalement différent quand nous avons la paix de Dieu. Est-ce qu'il ne faisait que plaisanter? Le Christ ne faisait-il que raconter des histoires? Essayait-il seulement de dire quelque chose qui encouragerait ses disciples pour qu'ils n'aient pas peur? Ou disait-il la vérité? Est-ce qu'il entendait ce qu'il disait et pouvons-nous avoir ce genre de paix? Philippiens 4, verset 6. Allons-y. Philippiens 4, verset 6. Voyez ce que Paul écrit. Ne vous inquiétez de rien. Rappelez-vous que Paul était en prison quand il a écrit ces paroles étonnantes. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aime ce verset, parce que parfois nos problèmes sont si nombreux, si grands, si insolubles, et durent depuis si longtemps, et on n'en voit même pas la fin. Peut-être que ce sont des problèmes de santé, des problèmes financiers ou personnels, et ils ne vont pas disparaître de sitôt. Il y en a que nous ne pouvons pas résoudre, nous pouvons seulement les gérer. Paul dit que la paix de Dieu surpasse la compréhension. Elle dépasse la logique. Elle va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer pour nous sortir des problèmes. Nous pouvons avoir accès à cette paix. Nous avons besoin de l'Esprit de Christ, pas de notre esprit à nous, qui que nous soyons. Nous avons besoin de l'Esprit du Christ, de sa pensée, pour avoir ce genre de paix. Imaginez ce que ce sera que d'avoir la pensée de Christ en abondance. Peut-être avons-nous besoin de méditer là-dessus de temps en temps. Pensez-y. Et laissez-vous vraiment imprégner de sa pensée, parce que c'est à son esprit que nous avons accès. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons, et c'est ce que nous pouvons avoir dans une certaine mesure dès maintenant. Cela peut nous aider à traverser les difficultés que nous devons affronter. C'est cet esprit qui est à notre disposition. Nous pouvons avoir cette paix maintenant, dans une moindre mesure, bien sûr, et plus tard, nous l'aurons pleinement. C'est tellement encourageant. Examinons un autre aspect de l'Esprit de Christ. L'expression « développer l'Esprit de Christ » n'est pas la meilleure expression, parce qu'elle laisse entendre que c'est quelque chose que nous pouvons construire, que nous pouvons bâtir, sur laquelle nous pouvons travailler. Autrement dit, si nous sommes assez bons, nous pouvons le développer. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose que nous devons plutôt recevoir, quelque chose d'extérieur à nous, que nous n'avons pas naturellement. En fait, ça doit être l'Esprit de Christ en nous. Le deuxième aspect de l'Esprit du Christ, c'est la joie. Numéro 2, la joie. Aimeriez-vous avoir plus de joie? Laissez-moi reformuler cela. En fait, pas plus de joie, mais une joie différente, meilleure. Pas une plus grande quantité de joie humaine, mais une joie différente, la joie du Christ en nous. La joie du Christ en nous. Voyons maintenant un autre passage où Christ, quand il était sur la terre, a enseigné ses disciples. Jean 15, le verset 11. Jean 15, le verset 11. Jean 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Wow! Encore une fois, imaginez-vous à sa place. Il ne traversait pas une période très joyeuse, n'est-ce pas? Tentez d'imaginer ce moment avec les yeux du Christ. Visualisez les événements qui se déroulaient avec ses disciples. Il faut considérer le point de vue de Jésus, ce qu'il vivait à ce moment-là, en sachant ce qui allait lui arriver ensuite. Il y avait pour lui beaucoup de douleurs et de grands traumatismes en perspective. Mais à quoi pensait-il? Et de quoi parlait-il à ses disciples? Il leur parlait de joie. Et il disait, « Vous pouvez avoir ma joie, et je veux que vous l'ayez en abondance. » Quelle était sa joie à ce moment-là? Quand vous considérez la vue d'ensemble, il avait presque terminé son ministère. Il avait presque fini d'accomplir la partie la plus importante de ce qu'il était venu faire, pour que tous ses frères et sœurs, pour que nous tous, puissions finalement avoir l'occasion de naître dans sa famille. Il était presque au bout de ses peines. Il ne lui restait que quelques pas à faire, pourrait-on dire. Son ministère était presque terminé, et il avait la perspective exacte de la raison pour laquelle il accomplissait tout cela, et cette joie imprégnait tout son être. Jean chapitre 16, verset 22. Voici ce qu'il dit à ses disciples. Vous êtes maintenant dans la tristesse, en parlant de son départ. Ses disciples commençaient à réaliser la situation, pas complètement, mais en partie. Et il leur dit ceci. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Puis il compare cette joie à celle de la naissance d'un enfant. Un peu avant cela, il parlait de la façon dont une femme, en accouchant, vit des moments extrêmement difficiles. La douleur est intense. Et pourtant, dès que l'enfant est né, son état d'esprit change instantanément à la vue de cette nouvelle vie et la joie qu'elle ressent est indescriptible. Jésus était animé d'une joie incompréhensible compte tenu de ce qu'il traversait, une joie humainement impossible. C'est ce qu'il avait à l'esprit. Et cela peut nous encourager lorsque nous traversons des difficultés, parce que nous pouvons puiser dans sa joie. Il a dit qu'elle était aussi pour nous. Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12. Nous pouvons y puiser, parce que nous avons l'Esprit de Christ, le Christ en nous. C'est ce que Paul disait à l'Église de Colosse. Voilà le mystère, ce que les gens ne comprennent pas. Oui, certains croient en Jésus, certains obéissent à Dieu selon leur degré de compréhension, et ils sont bénis dans la mesure où ils obéissent à Dieu. Mais ce dont nous parlons se situe à un tout autre niveau. C'est totalement différent. Quand le Christ vit réellement sa vie en nous. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus était parfaitement conscient de la raison pour laquelle il était là, et cela lui procurait de la joie. Concernant l'avenir, il savait ce qu'il accomplissait. Parfois, nous perdons courage parce que nous oublions pourquoi nous sommes ici. Nous oublions ce qui nous attend. Sur le plan humain, à quoi la joie se rapporte-t-elle le plus souvent? Eh bien, au plaisir. Est-ce que nous avons du plaisir? Avons-nous un pic d'adrénaline? Avons-nous une poussée de dopamine? Nous pensons souvent que ce sont ces choses-là qui révèlent si, oui ou non, nous avons de la joie. Sommes-nous sans souffrance, sans aucun inconfort? Si tout va bien, si nous nous sentons bien, et que tous les membres de notre famille vont bien, alors nous avons de la joie. Notre société, la société américaine en particulier, est obsédée par la crainte de l'inconfort. Nous faisons tout pour rendre notre environnement aussi agréable que possible, de toutes les manières imaginables. Au fil du temps, on a de plus en plus l'impression que, puisque nous vivons à la fin des temps, le but de la vie, dans la civilisation occidentale, est d'éviter l'inconfort. Mais ce n'est pas le but de notre vie, n'est-ce pas? Le problème avec ce raisonnement est que si nous vivons seulement pour éviter l'inconfort, notre zone de confort devient de plus en plus petite. Quand nous parlons de zone de confort, nous parlons en quelque sorte de l'environnement dans lequel nous sommes à l'aise d'agir. Et chaque fois que nous atteignons la limite de cette zone de confort, nous avons tendance à fuir. Peut-être lors d'une conversation difficile avec quelqu'un, peut-être quand nous savons que nous allons faire face à quelque chose que nous ne voulons pas affronter, nous ne sommes pas disposés à le faire et nous nous retirons. Nous n'y allons pas. L'ironie est qu'à mesure que nous reculons, notre zone de confort devient de plus en plus petite. Et si nous vivons de cette façon, notre zone de confort diminue continuellement. Et nous sommes de plus en plus frustrés parce que nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien par souci d'inconfort. Plus notre zone de confort diminue, plus notre monde se rétrécit complètement à l'opposé de la raison pour laquelle nous existons. Il faut comprendre que la vie est un terrain d'entraînement et que Dieu nous permet d'être poussés petit à petit juste au bord, jusqu'à la limite de cette zone. C'est là que la croissance se produit, peu à peu à la limite de notre zone de confort, qui s'étend alors, nous donnant un plus grand confort et une plus grande étendue d'action à mesure que nous faisons cela. Nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Cette vie est un terrain d'entraînement. Nous sommes en formation, formation avancée. Parfois, nous pouvons nous décourager en pensant « Je vis de cette façon depuis un certain nombre d'années, peu importe ce nombre d'années, même si c'est depuis des dizaines d'années. J'aurais cru que ce serait plus facile maintenant. » Mais ce n'est pas plus facile. En fait, certaines choses auxquelles je suis confronté aujourd'hui sont plus difficiles que ce que j'ai affronté auparavant. Et je me sens coupable parce que c'est comme si quelque chose n'allait pas. Puisque je vis de cette façon depuis tant d'années, pourquoi ai-je l'impression que cela devient de plus en plus difficile? Eh bien, quand nous suivons une formation, il est logique que Dieu permette que nous ayons des épreuves. Il nous donne des défis qui nous font avancer peu à peu. Vous savez, quand nous sommes en 9e année, l'enseignant ne dit pas, par exemple, « Aujourd'hui, nous allons donner un test de mathématiques de première année à tout le monde. Nous allons revenir à l'addition de 4 plus 2 et nous verrons comment vous vous en sortirez. Nous ferons aussi une soustraction un peu plus difficile. 6 moins 3. Et si les choses se passent bien, nous pourrions même aller jusqu'à faire une division. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque nous sommes en 9e année, le fait de pouvoir vraiment bien réussir un test de première année n'a aucune importance. Alors pourquoi nous sentir coupables d'avoir à continuer de lutter et nous dire, même si je vis de cette façon depuis longtemps, il me semble que j'ai maintenant des moments plus difficiles qu'avant. C'est une simple question de perspective. Parce que Dieu nous permet de faire face à des épreuves plus difficiles. Quand nous sommes en 9e année, nous faisons du travail de 9e année, n'est-ce pas? Et c'est cela qui nous fait avancer. Nous avançons un peu. Serait-ce différent dans notre vie spirituelle? Nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Nous sommes à l'entraînement. Nous avons besoin de la pensée de Dieu. Et nous l'avons par l'Esprit du Christ. Son Esprit est même appelé une huile de joie. Psaume 45, verset 7, mentionne une huile de joie. Pensons à Dieu et à Christ, là où ils sont présentement, à ce qu'ils font maintenant. Imaginez-les sur le trône de Dieu. Sont-ils malheureux? Sont-ils déprimés? Sont-ils frustrés? Je ne pense pas. Je suis sûr qu'ils ont toutes sortes d'émotions en voyant les souffrances de ce monde. Je suis sûr qu'ils ne sont pas à l'abri de cela. Ils ne sont pas des robots, mais je n'ai pas l'impression qu'ils se complaisent dans le malheur. Ils n'ont pas non plus besoin d'une montée d'adrénaline en montagne russe. Ils éprouvent une grande et profonde satisfaction au sujet de la progression de leur plan. Ils prennent beaucoup de plaisir à le voir s'accomplir. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Imaginez le trône de Dieu. Imaginez l'activité devant ce trône. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'activités, plusieurs anges qui vont et qui viennent pour rendre compte de ce qu'ils font. Le Père et le Christ parlent de leur plan, regardant ce qui se passe, pensant à ce qui va se produire ensuite et comment ils vont arranger les choses. Ils sont souvent déçus de ce que font les êtres humains. Mais, en même temps, ils sont profondément satisfaits et heureux que l'œuvre progresse, que des vies soient changées et que des pécheurs se repentent. Je pense parfois à mon grand-père, quand il y avait une grande réunion de famille. Nous jouions tous d'un instrument de musique et, inévitablement, à la fin de la soirée, grand-père disait, « Allez, tout le monde, sortez vos instruments et nous allons demander à tous les enfants de jouer ensemble un morceau de musique. » Il aimait beaucoup regarder sa famille. Il aimait entendre les échanges que nous avions, les rires et la musique que nous jouions. Il aimait s'asseoir en retrait et regarder ses enfants et ses petits-enfants. Son visage resplendissait de plaisir. Quelle est, selon vous, l'expression sur le visage de Dieu quand il nous regarde? Je crois qu'il est heureux. Heureux de ce qui se produit dans la vie de ceux qui marchent dans sa voie de vie. Nous devons méditer là-dessus et nous imprégner de cela, car trop souvent, il n'y a pas beaucoup de joie dans ce monde. Et les choses empirent. Mais nous pouvons avoir accès à la joie du Christ si nous la demandons, si nous y réfléchissons. C'est vraiment à notre portée. Y a-t-il un autre aspect de l'Esprit du Christ que nous puissions posséder? Parlons d'amour. Numéro 3. Aimeriez-vous avoir plus d'amour envers les autres? Encore une fois, c'est une mauvaise expression. Permettez-moi de reformuler. Aimeriez-vous avoir non seulement plus d'amour, mais une meilleure sorte d'amour? Une meilleure sorte d'amour. Jean, chapitre 15, verset 9. Jean, le chapitre 15 et le verset 9, le Christ déclare ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vivez dans mon amour. C'est-à-dire, de la même manière que moi, comme je pense à vous et à l'humanité, comme je vis, comme je suis. Si vous gardez mes commandements, les commandements sont une expression de son amour. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Beaucoup de gens disent, je t'aime. Mais que veut-il dire exactement? Jésus exprimait son amour envers ses disciples et il était sur le point de le prouver par le sacrifice ultime. De plus, il était attentionné, même à ce moment-là, parce qu'il connaissait leurs besoins. Son amour est bien plus grand que l'amour humain et c'est le type d'amour auquel nous pouvons avoir accès. Allons à Philippiens, chapitre 2, verset 1. Vous savez, parfois notre amour est mis à l'épreuve. Parfois, nous n'avons pas envie de nous aimer les uns les autres. Et si nous n'avons pas envie de nous aimer les uns les autres, nous n'avons pas besoin de le faire, n'est-ce pas? Si nous ne le ressentons pas, pourquoi devrions-nous l'exprimer? Eh bien, ce raisonnement est humain. Nous devons penser autrement. Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voici le but. Pensez comme lui. Comment Jésus et son Père nous considèrent-ils? Est-ce qu'ils nous aiment? Vous savez, malgré tout ce qui se passe dans le monde de nos jours, ils continuent de subvenir aux besoins des oiseaux, des animaux, de faire tourner la planète tous les jours et de nous empêcher d'être projetés dans l'espace en maintenant en vigueur les lois de la physique. Ils servent leur création tous les jours, à longueur de journée, parce qu'ils nous aiment. Jean 17, verset 20. Jean, chapitre 17, le verset 20. Pouvons-nous avoir l'amour du Christ en nous? Pouvons-nous avoir l'amour de Dieu en nous? Y avons-nous accès? Absolument! Jean 17, verset 20. Vers la fin de sa prière, Jésus dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et au verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. L'amour de Dieu et le Christ vivant en nous. Comment Dieu pense-t-il à nous? Nous regarde-t-il avec dégoût et répulsion? Il n'y a dans la Bible pas le moindre indice en ce sens. Et pourtant, parfois, certains d'entre nous peuvent se sentir excessivement coupables, au point de croire que Dieu ne nous pardonnera pas et que peut-être nous n'entrerons pas dans son royaume à cause de ceci ou de cela. Nous devons méditer à ce sujet. Dieu nous aime-t-il? Dieu nous aime-t-il? Imaginez-le sur son trône. Imaginez-le et réfléchissez. Que dit la Bible au sujet de Dieu et de son amour? Est-il satisfait? Est-il heureux? Nous savons qu'il a donné son Fils pour chacun dans le monde entier, alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Mais est-ce qu'il vous aime personnellement? Certaines personnes ont du mal à accepter que Dieu puisse réellement les aimer, eux. Si c'est notre cas, nous devons demander de l'aide. Nous devons demander l'aide de Dieu et réfléchir à tout cela. Essayons de nous percevoir comme il nous perçoit et nous voit, non pas en fonction de notre propre imagination, parce qu'elle se déchaîne parfois, mais en fonction de ce que dit la Bible au sujet de ce que Dieu pense de son peuple, de ce qu'il ressent pour les siens, ceux qui marchent avec lui. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est pour nous, qu'il est là pour nous. 1 Jean, chapitre 4, verset 8, mentionne que Dieu est amour. Ce n'est pas une métaphore. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas vraiment un être, mais simplement un sentiment. Ce que cela signifie, c'est que amour est le meilleur mot pour décrire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait, chacune de ses intentions. Et nous avons accès à tout ce qu'il est. Nous pouvons aussi en bénéficier. Est-il important que nous ayons l'Esprit du Christ pour avoir l'amour de Dieu? C'est crucial. Le dernier aspect dont nous allons parler est celui de la foi. Numéro 4. La foi est une caractéristique de l'Esprit du Christ que nous devons méditer pour bien la comprendre et vraiment s'en imprégner. Allons à Galates, chapitre 2, et nous allons lire le verset 20. Paul écrit ceci, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, nous le voyons encore et encore. Quand nous sommes baptisés et que nous avons reçu son Saint-Esprit, le Christ vit en nous. Le Christ vit en nous, cela signifie que nous pouvons avoir tous les aspects de sa pensée, de son esprit, à mesure que nous grandissons, que nous marchons avec lui. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. C'est écrit « oh », mais ça devrait être « du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». Vous pourrez vérifier dans un commentaire biblique ou une Bible interlinéaire. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une grande quantité de foi humaine pour accéder à Dieu. Nous avons besoin de sa foi en nous. Sa foi en nous. Notre foi humaine ne suffit pas. Dans quelles circonstances avons-nous besoin de la foi du Christ? Certains ont des problèmes de santé très importants, ou un proche traverse des moments difficiles. Nous pouvons nous épuiser, être troublés et nous inquiéter. Parfois, certains deviennent même nerveux et inquiets. Ils sont nerveux et inquiets, le cycle s'alimente lui-même, pour ainsi dire. Mais la Bible nous dit de ne pas avoir peur, c'est manquer de foi. Parfois, ce n'est pas tant parce que nous sommes nerveux et inquiets, mais parce que nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, c'est là le problème. Et nous nous sentons coupables d'être nerveux et inquiets. Nous essayons d'édifier notre propre foi, alors que Christ dit que nous avons besoin de sa foi. Peut-être que ce n'est pas assez réel pour nous. Nous devons y penser, lui demander sa foi et garder à l'esprit que ce n'est pas nous qui devons la faire grandir. C'est lui en nous, sa foi et son action en nous. Laissez-moi ajouter ceci. Quand il s'agit d'anxiété grave, il y a souvent des problèmes physiques, des problèmes chimiques ou hormonaux qui doivent être traités et ne pas être négligés. Et il se peut qu'une aide psychologique soit utile à une personne pour l'aider à développer des mécanismes de réflexion, pour adopter de nouveaux modèles et de meilleurs schémas de pensée. Cela sera très utile. Il faut aller chercher de l'aide. En fin de compte, nous avons besoin de l'aide de Dieu, de sa foi. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de sa pensée. Si nous sommes submergés par les tracas que nous devons lutter pour surmonter les difficultés, demandons-nous, ai-je oublié de demander au Christ de mettre sa foi en moi? Ai-je oublié de réfléchir à ce qu'il pense de mon problème? Qu'en pense-t-il? Que ferait-il à ma place? Vous me direz, écoutez, il est Dieu, il peut tout faire. C'est exactement cela. Il est Dieu et il vit en nous par son esprit. Nous avons donc accès à cette grande puissance, à cet esprit. Et nous en avons besoin. Jean 2, verset 7, révèle que le fait de nier que le Christ vient présentement dans la chair fait partie de la doctrine de l'Antéchrist. N'est-il pas intéressant que ce concept soit si important que Satan veuille le détruire, le faire disparaître? Le docteur Meredith a écrit à propos de ce verset dans la brochure « Quelle est l'identité de l'Antéchrist? » Et il explique qu'une partie de la doctrine de l'Antéchrist a pour but d'éliminer le concept selon lequel le Christ vit présentement dans les chrétiens. Il est très important que nous comprenions et méditions profondément à ce sujet. Le Christ vit en nous et par conséquence nous procure la paix, la joie, l'amour et la foi. Non pas ma foi, non une accumulation de foi humaine, mais la foi du Christ qui fait toute la différence. Allons maintenant au livre de Luc, au chapitre 17, s'il vous plaît. Allons à Luc, chapitre 17, verset 3. C'est intéressant, Jésus a eu une conversation avec ses disciples au sujet de la foi. Et il a d'abord dit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Pensez-vous qu'ils auraient même pu dire cela un peu ironiquement? Ça nous est impossible de faire cela. Nous ne pouvons absolument pas pardonner 7 fois à notre prochain. C'est sûr qu'ils ne regretteraient pas sincèrement, puisqu'ils ont recommencé 7 fois. S'ils n'étaient pas sincères, pourquoi devrions-nous leur pardonner? C'est humainement impossible, parce que nous savons ce qu'ils pensent. Ils ont donc dit, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur leur dit, « Messieurs, vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas que vous augmentiez votre foi. Car si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi, vous avez besoin de ma foi. Vous n'avez pas besoin de plus de foi, mais vous avez besoin d'une foi différente. Comme un grain de sénévé devient plus tard une grande plante, une infime quantité de ma foi peut faire des merveilles, peut faire des choses impressionnantes, peut totalement changer votre vie. Voilà ce que le Christ leur a expliqué. Matthieu 8, verset 23. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Arrêtez un instant et pensez-y. » Plusieurs parmi les disciples étaient des pêcheurs de profession. Est-ce qu'il s'agissait seulement là d'un petit balancement, d'un léger roulement de vagues sur la mer? Ces gens étaient habitués à la mer. Ils avaient sans doute traversé plusieurs tempêtes. Celle-là devait être terrifiante. Certains d'entre eux étaient des pêcheurs. Ils vivaient pratiquement sur l'eau. Et voilà qu'il pensait mourir. Et lui s'était endormi. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Gens de peu de foi. Qu'est-ce que cela signifie? Pour comprendre, il faut voir les choses avec les yeux du Christ, selon sa perspective. Eux trouvaient la situation désespérée, complètement hors de contrôle. Mais il leur dit qu'au contraire, tout était sous contrôle. Ils n'avaient tout simplement pas la bonne sorte de foi. C'est ce qu'il leur explique. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Qui servons-nous? Qui est celui qui est prêt à vivre en nous? Qui est celui qui est prêt à mettre son esprit en nous et à nous donner sa foi? Avons-nous déjà eu l'impression que notre situation était hors de contrôle? Voyons les choses avec les yeux du Christ. » Non pas qu'il soit prompt à nous critiquer, mais il pourrait nous dire, « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Ne comprenez-vous pas qui je suis? Ne comprenez-vous pas qui vit en vous? Et ne comprenez-vous pas à quoi vous avez accès? » Qu'en est-il au juste? Nos pensées ne sont pas assez bonnes. Nous avons besoin des pensées de Dieu. Nous avons besoin des voix de Dieu. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6, un passage familier. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Vous savez, nous pensons que les méchants sont de très mauvaises personnes, mais ce verset nous concerne aussi, il s'applique à nous. Il y a des moments où nous devons abandonner nos pensées, n'est-ce pas? Nous devons abandonner notre voie et nous avons besoin de nouvelles pensées. Nous avons besoin de pensées différentes et d'un esprit différent. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nous avons accès à ces pensées et ces pensées peuvent devenir nos pensées. Voilà tout l'enjeu. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, cela ne vient pas de nos propres efforts. Verset 11. Qui donc parmi vous connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Comme M. Armstrong avait l'habitude de le répéter très souvent, nous devons avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles que nous ne pouvons pas comprendre par la pensée humaine. Mais Dieu nous a donné son Esprit. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Quelle grande puissance! Et pourtant, en profitons-nous vraiment? Ou est-ce que pour nous, ce ne sont que des mots? Méditons-nous vraiment sur ce que cela signifie? Et cela change-t-il vraiment notre vie? Surtout quand nous avons désespérément besoin que le Christ vive sa vie en nous et mette ses pensées en nous. Allons maintenant à Jean, au chapitre 15, verset 1, pour conclure. C'est un processus de formation dont nous avons déjà parlé. Le Christ dit ceci, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Ce concept est partout dans le Nouveau Testament. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous ne pouvons y arriver seuls. Et si jamais nous avons l'impression de ne plus pouvoir continuer, nous devons nous tourner vers cette Écriture et réaliser la puissance que Christ nous offre. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ça l'important. Nous nous tournons vers lui, nous méditons sa pensée, son esprit, la puissance qu'il a et comment il veut que nous considérions les choses. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Nous devons avoir ces paroles en nous. Nous devons remplir notre esprit de ces paroles. Pas seulement lire au sujet des personnages bibliques, pas seulement cocher des items sur une liste, mais réfléchir à ce qu'il dit et avoir la pensée du Christ. Considérant ce qui existe dans tout l'univers, le fait d'avoir accès à l'Esprit de Christ est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions avoir. Je n'exagère pas. Nous devons réfléchir à la signification réelle de ces paroles et à sa manière de penser. Nous devons imaginer et visualiser qu'il est là, parce qu'il est là, et son Père aussi, et il nous aime. Ils ont tout donné pour nous et ils feront tout pour nous faire entrer dans leur royaume. Nous devons laisser le Christ diriger nos pensées et notre vie. C'est ce qui signifie avoir la pensée du Christ.